soir à partir de 19h, temps universel. Pour l'heure, restez avec nous dans un petit instant, 8 milliards de voisins. Laurence Garcia, à tout à l'heure.
Midi 10 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le Plat de Résistance et comme chaque vendredi dans ce Plat de Résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la Clé des Ondes 90.1.
Et sans autre transition, l'invité. On continue sur l'interview de Philippe Geneste.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure des années 80, la difficulté quand on parlait de dictature prolétarienne. J'ai dit que les années 2000 marquent un tournant. On peut même le dater, enfin je le daterai, avec tout ce que cela a un peu d'arbitraire toujours, hein, de dater comme ça, mais de 2002, c'est-à-dire la parution de Putain d'usine de Jean-Pierre Levaret. Pourquoi c'est un tournant ? Parce que ce livre, qui est publié par l'Insomniac, ce livre va rencontrer son public. Il va rencontrer son public, entre autres raisons, parce qu'il va être porté à la scène aussi. Bien plus tard, il sera porté aussi en bande dessinée, mais avec FX comme dessinateur. Mais ce livre marque vraiment un tournant. Il y a une écriture chez Jean-Pierre Levaret qui serait totalement faux d'assimiler à du témoignage. C'est pas du témoignage, c'est vraiment du récit. Après, ça pose plein de questions de composition, sur la composition des ouvrages, sur les choix d'écriture. Mais par exemple, j'ai travaillé sur ces récits en montrant combien Jean-Pierre Levaret maîtrise la double narration. Et c'est grâce à la double narration qu'il réussit à la fois à être... à la fois présent dans ce qu'il écrit, puisque c'est toujours d'une certaine façon, certains diraient qu'il irait un peu trop vite, que c'est autobiographique, puisqu'effectivement, ce dont il parle, c'est ce qu'il vit. Mais en même temps, il se met à l'extérieur. D'ailleurs, dans la pièce qui est tirée de Putain d'usine, dans la pièce, l'écrivain, c'est-à-dire... L'écrivain, il est sur le côté. Hein. Il est sur le côté. Il regarde, il observe, il est observateur. Et pourtant, il est membre du collectif. Il est membre du collectif ouvrier qui est dans la pièce. Et cette œuvre, sur quoi je peux m'appuyer aussi pour dire que c'est une œuvre qui marque un élan nouveau de la littérature prolétarienne, c'est que des écrivains vont se revendiquer directement ou pas, mais vont se revendiquer de fait de l'écriture de Jean-Pierre Levaret. Je pense à Éric Louis, qui lui le dit carrément, qui a écrit un remarquable récit très court sur la mort d'un cordiste. On a perdu Quentin, c'était en 2018. Je pense aussi à un auteur comme Giuseppe Lucatelli qui a écrit un texte qui s'appelle Pièce détachée, qui lui aussi se rapproche beaucoup de la composition des récits de Jean-Pierre Levaret. Et là aussi, ce sont des récits en général courts. Ce travail interne, je dirais, à la littérature prolétarienne, alors que ce ne sont que des individus, il n'y a pas de groupe, hein, depuis, encore une fois, si on cherche des groupes, des interventions de groupes d'écrivains prolétariens, je n'en citerai que deux, le Musée du Soir, autour de la revue, de René Berthelot, par conséquent, enfin, il n'est pas tout seul, hein, Gornick, Paul Berthelot, etc., qui a donné lieu, à, qui s'est transformé après en APLO, l'Association pour la promotion de la littérature ouvrière, en 2007. Donc je citerai le Musée du Soir et je citerai le bulletin des écrivains prolétariens, qui est très court. Hein, c'est mars-juin 1932. Jean-Paul Gachignard, dans la réédition de l'intégrale des bulletins des écrivains prolétariens, le dit, hein, que c'est l'expérience la plus cohérente en tant que groupe, hein, je dis bien en tant que groupe, hein, parce que Poulaille a créé des revues, des revues, et il a permis à cette littérature d'exister. Enfin, Poulaille, c'est l'âme de la littérature prolétarienne en France dans les années 30, ça c'est sûr. Donc, je vais prendre un autre exemple. Un ouvrier métallurgiste, François Lebert, il publie en 2016 une anthologie du désespoir industriel. C'est une œuvre particulière, c'est une œuvre que j'appelle scriptographique, c'est-à-dire que c'est à la fois un dessin et c'est une légende. Et cette œuvre, en réalité, François Lebert écrit aussi à côté de ça de la poésie, comme, que certains pourraient dire engagée, je dirais plutôt narrative, mais peu importe, il est à la fois poète, donc, et il publie aussi, enfin, il en publie aussi, des dessins, sans texte. Donc. Bien, mais le dernier livre, le second livre de François Lebert, qui a été édité par les éditions Prolitz, donc lié au CLOPS, ce second livre s'appelle « Ligne de front ». Et c'est intéressant parce que « Ligne de front », ben, c'est tout simplement un hommage à Joseph Pontus. Or, Joseph Pontus a publié un livre qui s'appelle « À la ligne, feuillet d'usine ». Joseph Pontus, donc, qui est mort en 2021. Joseph Pontus, donc à la ligne, feuillet d'usine, il est évident que François Lebert lui rend hommage par ce titre-là. Or, Joseph Pontus, c'est une figure du prolétaire intérimaire qui, dans son écriture, cherche par la versification à écrire un roman. Donc il y a une recherche, c'est un petit peu le leitmotiv de mon travail, notamment actuellement, c'est de montrer que les écrivains prolétaires sont en recherche de forme. Ils emploient la poésie. Bon, on peut penser à Marcel Delpastre, par exemple, parmi les écrivaines paysannes, les poétesses paysannes. Enfin, elle n'aimerait pas dire poétesse. Elle ne voulait pas qu'on l'appelle poétesse, donc poète paysanne. Mais on peut donc à la fois la poésie. Il faut penser à quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup travaillé, à savoir Thierry Metz, qui est une œuvre absolument majeure de la poésie contemporaine de la deuxième moitié du XXe siècle, peut-être la plus belle, enfin en tout cas, bon, ça ne veut jamais rien dire de dire des choses pareilles, mais enfin, d'une certaine façon, quand même, c'est une très très grande œuvre poétique. Donc, ils empruntent la poésie, ils empruntent les différents genres, mais ils les questionnent, ces genres, et notamment au niveau du roman. Tout ce qui est prose est extrêmement interrogé par les écrivains prolétariens. Ce que montrent, par exemple, les lectures prolétariennes que je mène, c'est que c'est très rare que le genre ne soit pas interrogé. Or, le genre, c'est la première, et c'est le premier élément formel dans lequel toute personne qui parle est obligée de s'accommoder avec le genre. Et il est assez intéressant de voir, et c'est vrai chez Le Barré, c'est vrai chez Régis Philly, c'est vrai chez pratiquement tous les prolétaires, il y a une interrogation sur cette forme-là, qui est une forme normée, mais en même temps obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté, sinon on ne peut pas, on peut tout simplement pas s'exprimer, et je ne pourrais pas m'exprimer ici. Voilà. Donc, il y a ce travail formel qui est extrêmement important à notifier. Quelle est la part? Comment est-ce que... pourquoi ce besoin d'écriture chez le prolétaire ou chez la prolétaire? Pourquoi ce besoin d'écriture? Pourquoi, par exemple, Marguerite Anne trouve nécessaire, à un moment donné, d'écrire « Mes aventures de Dame Pipi ». C'est un ouvrage de 2019. Bon, donc elle est, comme le titre l'indique, elle est travailleuse de nettoyage, elle s'occupe des toilettes publiques, et elle raconte. Mais elle ne choisit pas de donner un document, elle choisit de raconter. Donc, la littérature prolétarienne interroge aussi, comme toute littérature, pas plus que d'autres, mais pas moins que d'autres, et elle interroge cette nécessité de passer par le récit pour pouvoir mieux rendre compte du réel. Mmh. Et là, alors certains, ce sera le récit, d'autres, ce sera la poésie, d'autres, ce sera la nouvelle. Très rares seront ceux qui passeront par la bande dessinée, encore plus rares ceux qui passeront par le théâtre. Mais, bon, c'est malgré tout... On ne peut pas parler de littérature prolétarienne en parlant exclusivement soit de témoignages, soit alors de mémoire. Ça, c'est faux. Enfin, pour moi, c'est faux. Et c'est une manière aussi qui amènerait un autre débat sur l'usage de la parole des prolétaires. En sciences sociales, on va utiliser des ouvrages de littérature prolétarienne, mais en tant que document. Voilà, donc ça, c'est peut-être un autre sujet. Et peut-être, pour si j'ai encore un peu de temps, j'aimerais finir par un prolétaire qui était représentant de commerce. Il est mort il y a très récemment. C'est Louis Ramé. Il était représentant de commerce et il était fasciné par les noms des lieux qu'il traversait. Il traversait sur toute la France, donc il a, dans ses différents emplois. Et il a écrit une œuvre qui est, à mon avis, extrêmement étonnante. Une œuvre sur l'origine du langage. Et il a son premier livre qui a été édité par Bénévent, c'est une édition pas très scrupuleuse, je dirais, une auto-édition pas très scrupuleuse, finalement. Son livre s'appelle « Et la chair s'est faite verbe » ou « La mort de Saussure », où il montre que, en comparant peut-être pas vraiment les langues, mais les mots des langues, de différentes langues, il y a nécessairement une motivation qui est à la base de tout langage. Et il a édité, et c'est un énorme ouvrage de 600 pages, il a édité ensuite un autre ouvrage, bien édité celui-là, par La Cour, un petit éditeur de Nîmes, qui s'appelle Tianmen, tête à l'envers, ou l'inventaire du langage. Donc le premier, c'était en 2009, le second en 2011. Alors, bien sûr, ce genre d'ouvrage est prêt à critique, peut-être, mais il n'empêche que si on regarde de façon un peu plus attentive et si on veut bien analyser dans le détail, on s'aperçoit que, finalement, Louis Ramé repose la question l'unité du langage, du refus de la dissociation du corps et de l'esprit, et donc d'aller vers une conception plus matérialiste du langage et véritablement humaine. Mm-hmm. Voilà.
Il reste 40 minutes, secondes. Non, tu veux conclure une petite conclusion, peut-être, pour...
Thank you.
grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger la scie rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre. Battus par les vagues, rongés par la mer. Tombés sur le flanc, giflés des marées. Vaincu par l'argent, des monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, y a plus rien. Pour gagner des clous, c'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je voudrais travailler.
Les mains d'or, interprétées par Isabelle Boulet dans ce cas précis. En studio, on était en train de se dire que réclamer à travailler encore pour une émission qui avait débuté sur le sabotage, c'était quand même pas mal. Bon, soyons sérieux. Les mains d'or, de Bernard Lavilliers, c'est une chanson sur le combat des mineurs pour leur travail et contre le chômage subi. Et il la chantera sur les piquets de grève à Florange en 2012, lors des mouvements contre la fermeture des hauts fourneaux par ArcelorMittal. Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
Le débat d'actualité.
Et oui, on continue avec le débat d'actualité, puisque il y a maintenant plusieurs mois, en fait, nous étions allés à l'Athénée Libertaire voir une conférence avec Elsa Deck-Marceau, qui a écrit le livre « Faire justice, moralisme progressiste et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ». On a pris une petite quinzaine de minutes de cette conférence parce qu'on a trouvé ça à la fois très intéressant et ça nous pose aussi beaucoup de questions de savoir comment nous les militants, on arrive à avoir des pratiques punitives envers nos camarades tout en ayant des pratiques démocratiques. Allez, on écoute.
Alors déjà, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. C'est un peu impressionnant. Surtout pour ma dernière date là, de tournée, je suis hyper contente de vous voir. Alors, donc pour parler un peu du processus d'écriture, effectivement, ça n'a pas été simple du tout. Ce livre, c'est le produit de 4 années de travail au sein d'un collectif que j'ai cofondé, donc FRACA, qui est un collectif d'entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences dans les milieux militants. Et en fait, il s'avère à la fin qu'on n'a pas accompagné que des militants, mais on pourra en reparler un peu plus loin. Mais en tout cas, le livre, c'est vraiment venu dans l'envie de partager tous les constats qu'on avait faits et de pouvoir sensibiliser aussi sur tout ce qu'on faisait entre nous, aussi bien des choses très belles et des initiatives merveilleuses, mais aussi ce qu'on pouvait faire de pire. Et ce livre, j'ai eu l'occasion de l'écrire parce qu'on m'a contactée pour me proposer de l'écrire. Et du coup, c'est là d'où est venue l'envie et l'idée de mettre à l'écrit tout ça. Et effectivement, ça n'a pas été simple parce que je crois que pendant vraiment plusieurs mois de l'écriture, j'ai été complètement parasitée par toutes les voix qui étaient dans ma tête, notamment les voix de la communauté, de la pureté militante, mais aussi les voix de mon éditrice, mes voix à moi. Enfin, voilà. Et finalement, j'ai réussi à m'en débarrasser tout en ayant quand même un peu peur de la récupération politique autour du bouquin, qui est quand même une tentative d'autocritique de ce qui peut se faire dans ces milieux militants. Et qui dit autocritique publique dit potentielle récupération, notamment des gens qui critiquent les milieux dont je parle, quoi, les milieux progressistes, les milieux de gauche et d'extrême gauche. Donc il y avait quand même une légère peur d'une récupération à la fois politique des réacs, quoi, et puis à la fois d'une récupération politique de personnes qui voudraient peut-être laver leurs mains de choses qui leur auraient été reprochées et qui voudraient se servir un peu des outils ou des notions dont je parle pour avoir le nouveau lexique militant à la mode et pouvoir un peu se faufiler parmi les accusations. Donc c'était voilà, un peu les deux grandes figures de méchants loups auxquelles j'ai dû faire face, mais je me suis dit que ça valait le coup de sortir quand même un livre, parce que au-delà de la peur des réacs, je pense que ce qu'on se fait entre nous nous ralentit déjà énormément et nous inflige beaucoup de blessures dont il faut pouvoir faire la critique et dont il faut pouvoir s'adresser pour qu'on puisse justement aller plus loin et qu'on puisse produire des luttes qui soient plus fortes et plus justes aussi en interne, quoi.
Je me demandais aussi quels ont pu être les problèmes que vous avez rencontrés pendant la mise en place de cette justice transformatrice. Quels éléments peuvent bloquer la mise en place de cette pratique ?
Donc le collectif FRACA, duquel je parle beaucoup dans le livre, c'est un collectif qui est un collectif qui souhaite accompagner des gens, des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire appel à la police pour prendre en charge leur violence ou leur conflit. Nous, on porte des principes abolitionnistes, c'est-à-dire qui visent à abolir le système pénal carcéral, qui visent à abolir la police et qui pensent qu'on ne peut pas arriver à un monde juste et égalitaire pour tous et toutes si on continue de régler nos conflits et nos faits de violence par ces outils-là, par ces institutions-là. Donc c'est l'idée que nous, on s'est monté au début en se disant: il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas passer par la police ou ne veulent pas passer par la police, qui se retrouvent face à des situations hyper compliquées de violence, de conflits, de désaccords, etc. Et qui se retrouvent très seuls face à ça parce qu'il n'existe rien une fois qu'on a refusé de passer par ces institutions-là ou qu'on ne peut pas passer par ces institutions-là. Donc on s'est dit, on va se monter, on va essayer d'accompagner ces gens-là à travers les conflits dans leur collectif, à travers des violences physiques qu'ils avaient vécues et face auxquelles ils ne savaient pas quoi faire, enfin face à tout un tas de situations, avec l'idée que personne n'était jetable. C'est-à-dire que nous, on allait essayer d'aider chaque personne, malgré la diversité et la complexité de leur situation, même si ça ne rentrait pas dans des petites cases de « ah bah telle chose, on va le traiter comme ça, telle chose, on va le traiter comme ça ». On a vraiment essayé d'inventer un système D, quoi. Parce qu'en fait, quand on s'est monté, on avait quand même la volonté de se former à ce qui existait déjà, mais il n'existait pas grand-chose. Donc il y avait la recherche de ce qu'on pouvait mettre en place, et on en est venu effectivement à la justice transformatrice, dont on va parler un peu plus longuement, mais en tout cas, c'était vraiment une justice de terrain, quoi. En fait, tous les jours, vous faites justice. Tous les jours, nous, enfin, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous fait justice déjà dans ces écoles, dans ces collectifs, dans tous les espaces que vous traversez. C'est juste qu'on n'en est pas conscient parce qu'on pense que la justice, c'est l'apanage des institutions, c'est l'apanage de la police, etc. Donc maintenant qu'on prend conscience de ça, qu'on fait tous et toutes justice, comment on cultive ça, comment on s'en empare et comment on attrape des outils qui nous permettent de le faire bien, quoi. Quand même, on a joué un peu au petit chimiste, dans le sens où on s'est monté avec, du coup, trois orientations principales au sein de ce collectif. Donc ce collectif, c'est un collectif, je ne l'ai pas dit, mais on était trois au début, aujourd'hui on est six. On a doublé nos effectifs, mais on reste pas beaucoup. On était des personnes queer et féministes. Donc on se place vraiment dans cette orientation-là. On a des principes féministes très forts et c'est de ce corpus-là, de ces réflexions-là qu'on vient. Et on avait trois orientations, donc accompagner les personnes ou les collectifs en situation de violence, de conflit, etc., qui ne savaient pas quoi faire, donc de l'accompagnement. On avait le fait de se former et de s'auto-former aux dispositifs déjà existants, parce que dans nos milieux, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on réinvente l'eau chaude, mais quand même, il y a des choses qui ont été faites avant, donc c'était bien de se former dans les dispositifs de soins, dans les dispositifs de droit, dans tout un tas de dispositifs d'éducation populaire, etc., etc., et essayer de les mélanger pour en faire des dispositifs qui puissent être adaptés et adaptables à nos situations et nos contextes. La dernière orientation qu'on s'était donnée, c'était la sensibilisation et le fait de pouvoir transmettre ce qu'on avait fait. Donc le livre vient dans cette troisième orientation, par exemple. Et donc oui, on a effectivement rencontré pas mal de problèmes, notamment, je pense qu'au début, on a porté une position, une posture qui était assez incompréhensible, notamment de la part des féministes, un truc qui était beaucoup moins binaire que juste... il y avait les victimes d'un côté, les bourreaux de l'autre, etc. On va revenir sur tout ça, mais en tout cas, nous, on a essayé de remettre de la complexité dans la manière de lire les violences. Et ça, typiquement, ça n'a pas été très apprécié au début. Et je pense que la différence entre la manière dont le livre là est reçu et la manière dont notre travail a été perçu au début, il y a quelques années, elle est flagrante. Enfin, vraiment, vous voyez, vous êtes aussi nombreux que ça. C'est impressionnant, donc ça montre qu'il y a vraiment un sujet et qu'il faut qu'on s'en empare, etc. Mais il y a 4 ans, il y a des gens qui nous ont dit qu'on était antiféministes, qu'on les faisait vomir, etc. Enfin, c'était vraiment... Et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre, c'est juste... Je pense qu'il y a quand même une évolution globale de nos collectifs, de nos milieux. Et je pense qu'il y a aussi une évolution qui doit se faire dans le temps. Donc, il y a 3 mouvements dans le livre. Le premier mouvement dans le livre, c'est la critique du contexte militant dans lequel on se trouve et comment ça se fait qu'effectivement, dans des milieux qui critiquent la police et qui critiquent les institutions punitives, on se retrouve nous-mêmes à mettre en place des outils punitifs, tels que l'exclusion, l'isolement, l'humiliation publique, le harcèlement, la dénonciation sur les réseaux sociaux, etc. Comment ça se fait qu'on se retrouve à faire ça, alors même que c'est des outils qu'on critique chez nos ennemis politiques? Donc ça, c'est le premier mouvement. Et ensuite, effectivement, dans la deuxième grande partie, je parle des pratiques punitives et de qu'est-ce que j'entends par pratiques punitives et comment ces pratiques-là se passent dans nos milieux. Parce que, en fait, je pense que très peu de gens sont au courant, en fait, de la gravité, du niveau de gravité jusqu'auquel ça peut aller dans ces situations-là. Je donne 2 cas de figure. C'est fictionnel, c'est-à-dire que j'ai utilisé plusieurs éléments de plusieurs histoires parce que c'est, enfin, faut respecter la confidentialité, mais en tout cas, il y a 2 histoires différentes, 2 cas de figure pour justement venir expliquer parfois qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qui est absurde de mettre en place parce qu'en termes d'objectifs, ça atteint pas du tout les objectifs qu'on recherche à la base. Et là, en l'occurrence, c'est une femme qui milite dans les milieux féministes depuis très longtemps, quoi, et qui milite contre les violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, il y a un moment où elle subit une agression, enfin une violence sexuelle de la part d'un ami à elle au sein d'une soirée. Et elle décide, après en avoir beaucoup parlé avec les gens autour d'elle, après avoir beaucoup réfléchi, elle décide d'établir une discussion avec cette personne. Et après cette discussion, où elle estime que c'était assez satisfaisant, elle décide de rester en contact avec lui. Et je raconte cette histoire où finalement cette femme-là, des mois après, reçoit un mail qui la call out sur. Enfin, donc call out, c'est une dénonciation nominative publique pour un fait, un agissement, quoi, que la personne aurait commis. Donc là, par exemple, elle est dénoncée sur les listes mail de sa ville comme étant une personne qui soutient les violeurs. Et donc elle, au début, ne comprend pas du tout d'où ça peut venir, etc. Parce qu'elle, elle milite encore une fois depuis des années contre les violences sexistes et sexuelles. Et le mail n'est pas signé, il ne fait pas mention de faits concrets, donc elle ne sait pas à quoi se raccrocher, elle ne comprend pas à quoi ça fait référence. Donc elle commence à chercher et à essayer de contacter des gens et tout, puis finalement elle comprend que ça fait référence à cette première histoire dont elle-même est la victime. Et face à cette histoire, c'est elle qui a fait ce choix-là, quoi. Elle a fait ce choix conscient de rester en contact avec ce gars parce que, après vraiment avoir pris du temps, elle a estimé que c'était ça qui lui faisait plus de bien que de couper les ponts avec ce mec, par exemple. Et pourtant, elle se retrouve donc call-outée sur ces listes mail-là, et elle finit par être très isolée socialement, parce que tout le monde finit par lui tourner le dos, vu que personne ne sait exactement de quoi il s'agit, personne ne sait même que c'est cette histoire dont il s'agit, et elle se retrouve mise au banc de ses communautés militantes, de lieux de sa ville, etc. Donc elle se retrouve hyper isolée. Et cerise sur le gâteau, elle se retrouve très isolée, elle se retrouve aussi à porter son ami qui finit par être lui-même très isolé, et du coup elle se retrouve avec toute la charge mentale de porter ce gars qui en fait va mal aussi du fait de l'isolement. Donc bref, je raconte cette histoire et j'en raconte d'autres, enfin je donne beaucoup d'exemples au fil du livre, mais en tout cas c'était vraiment ensuite pour pouvoir le décortiquer, pour pouvoir analyser aussi tous les enjeux qu'il y a autour de ces histoires qui en fait se retrouvent, je l'ai rencontré plusieurs fois quoi, que le groupe se retourne envers la victime typiquement. Donc voilà pourquoi je donne cet exemple. Ce que j'aime penser aussi, c'est que le problème c'est pas l'exclusion, le problème c'est pas le call out, le problème c'est pas la dénonciation, etc. Le problème c'est comment on le fait. Exclure une personne, ça peut être légitime dans plusieurs types de situations, notamment si on parle d'une personne qui est multirécidiviste, face à qui d'autres choses ont déjà été tentées, ont déjà été mises en place, et que cette personne n'entend pas ce qui lui est reproché, et elle par exemple, est dans le déni. Et bah, typiquement, l'exclusion, ça peut permettre de protéger le groupe, ça peut permettre de protéger la communauté qui est autour. Et donc là, par exemple, l'exclusion, exclure une personne, pour moi, ça doit toujours se faire avec un cadre temporel, c'est-à-dire une durée limitée dans le temps, au bout de laquelle on va refaire le point avec cette personne, voir où elle en est, si elle s'est transformée, si elle a évolué, etc. Ça doit se faire aussi avec un cadre géographique. Elle ne peut pas être exclue de tous les lieux de sa ville, par exemple, parce que sinon, c'est invivable. Enfin bon, y a quand même quelques petits trucs à mettre en place pour que ce soit bien fait. Et puis, il faut aussi lui expliquer pourquoi elle est exclue, qu'est-ce qui lui est reproché, etc. Mais en soi, l'exclusion, c'est pas quelque chose. Enfin, ça peut être quelque chose qui est pertinent et utilisable. Et donc, ce qui est important, c'est juste de dire que on peut pas systématiser nos réponses aux faits de violence. C'est juste qu'on doit écouter les gens. On doit écouter ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin aussi pour aller mieux, pour comprendre ce qui leur arrive, pour comprendre ce qui leur est reproché, etc. Et partir de là pour créer des choses sur mesure, quoi.
Pour en revenir à la justice transformatrice, est-ce que tu as du recul sur l'efficacité de cette pratique ?
Donc, la justice transformatrice, j'ai l'habitude de la définir en l'opposant un peu avec deux autres types de justice. Donc, la justice punitive, qui est la justice dans laquelle on baigne tous et toutes, qui est la justice qui repose sur l'idée que punir une personne pour un acte répréhensible ou un acte désigné comme répréhensible est juste et nécessaire. Il y a un autre type de justice qui en France commence à être un peu connu grâce au film « Je verrai toujours au visage », donc la justice restaurative. Donc la justice restaurative, c'est une justice qui vise à revenir à un état d'apaisement antérieur. Il s'agit de réparer le lien ou de réparer la situation pour revenir à un état d'apaisement antérieur. Donc c'est plutôt un mouvement de revenir à un état un peu plus apaisé et antérieur. Là où la justice transformatrice, pour le coup, va venir voir le fait de violence ou le conflit comme le moment où on va justement pouvoir venir travailler le contexte dans lequel a émergé ce fait de violence ou ce conflit. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais si quelqu'un vole une pomme dans la rue sur une étale, la justice transformatrice va moins essayer de punir cette personne pour le vol de pomme que de comprendre pourquoi cette personne a dû voler une pomme. C'est quoi le contexte socio-économique de la personne ? C'est quoi le contexte de vie de la personne ? Le contexte familial, etc. Et comment on va pouvoir venir comprendre et travailler sur ce contexte pour faire en sorte que le fait ne se repasse pas dans le futur ? Donc c'est une justice qui vise à la fois accompagner bien sûr les protagonistes de l'histoire, quoi. Enfin, si on parle d'une violence sexuelle, l'auteur et la victime, ou si on parle d'un conflit, les divers protagonistes. Mais c'est aussi une justice qui va venir travailler avec le groupe, avec la communauté, la collectivité, la société, plus dans son ensemble, pour comprendre comment cette violence a pu arriver. Et donc c'est une justice qui vraiment se positionne comme vraiment un acte d'engagement politique, quoi, pour changer les rapports de domination, pour changer les rapports de pouvoir qui traversent notre société et faire en sorte que ça puisse changer à un niveau structurel et systémique notamment, mais en profitant des violences aussi interpersonnelles qui se déroulent. La justice transformatrice, c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu en France. Absolument pas. Il y en a sûrement qui connaissent parmi vous, mais c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Ça vient d'arriver dans le sens où ça a été créé aux États-Unis. Enfin, c'est un terme qui a été créé aux États-Unis dans les années 1990. Ça, c'est en train d'arriver en France vers 2015, un truc comme ça. Mais c'est une justice qui est encore assez peu connue. Et aux États-Unis, elle a été portée à l'origine par des communautés plutôt racisées, queer, anti-validistes, handicapées. Enfin, par des communautés en fait qui n'avaient pas le choix de passer par la police pour régler leurs propres problèmes. Donc c'est vraiment des gens qui se sont trouvés face à leur situation en se disant « si on appelle la police, on va être encore plus dans la merde que si on n'appelle pas la police. » Donc il faut absolument qu'on trouve des manières de répondre à nos actes qui ne passent pas par la police. Et donc c'est intéressant parce que c'est une justice qui est profondément abolitionniste. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reposer sur la police. Et en plus, c'est une justice qui vise à être une force critique de la police et des institutions pénales carcérales. En tout cas, en France, la justice restaurative, c'est une justice qui repose sur les appareils de justice pour se développer. Elle repose sur le ministère de la Justice, elle repose sur le dépôt de plainte, etc. Enfin, c'est une justice qui est entremêlée avec l'institution pénale carcérale. Là où la justice transformatrice ne vise pas du tout à se mêler à ces institutions-là et vise vraiment à rester une justice de terrain, de quartier, une justice militante et profondément contestatrice, quoi. Et donc, pour répondre à ta question de « est-ce que ça marche ?» Bon, déjà, je ne sais pas si on fait de la justice transformatrice. Bon, après vous avoir dit tout ça, voilà, mais... Je ne sais même pas si on fait justice à Fraca. Donc, mon livre s'appelle « Faire justice », mais c'est un gros mensonge. Je pense que nous, on accompagne des gens à partir de là où ils en sont pour juste les amener un tout petit peu plus loin et permettre à des gens de se déplacer un tout petit peu par rapport à leur situation, que ce soit des groupes ou des personnes, et qu'on vient vraiment les accompagner avec des outils qui sont féministes, évidemment, avec des outils qui sont politiques. Mais je crois qu'on ne vient pas faire justice. Après, ça, je ne vais pas me lancer dans un débat de c'est quoi faire justice, mais c'est quoi la justice. Mais en tout cas, je pense qu'on ne se positionne pas exactement là. Et du coup, la justice transformatrice, nous, c'est un outil sur lequel on se repose beaucoup parce qu'on va systématiquement, quand on en a l'occasion, travailler à la fois avec les personnes directement concernées, mais aussi avec les gens qui sont autour. Parce que ça nous permet des leviers incroyables et ça nous permet aussi de sensibiliser les gens sur le fait que... Les faits de violence, les conflits, c'est genre notre affaire à tous et à toutes, quoi, et qu'il faut qu'on se mette les mains dedans. Mais du coup, oui, ça marche dans le sens où je crois qu'après 4 ans, si je continue, c'est que j'estime que je vais quelque part, quoi.
Alors, j'avais complètement oublié de vous dire que vous venez d'écouter Elsa Deck-Marceau, et c'est le livre Faire justice, et surtout que vous pouvez réécouter l'entièreté de cet enregistrement sur le site La Clé des Savoirs, la clé des ondes.fr, et l'émission, c'est La Clé des Savoirs. Allez, on est parti pour un petit peu de musique.
I'm a mild-mannered man as can be. And I've never done them harm that I can see. Yet on me they put a ban, and they throw me in the can. They go wild, simply wild over me. They accuse me of rascality, and I can't see why they always pick on me. I'm as gentle as a lamb, yet they take me for a ram. They go wild, simply wild over me. Oh, the bull, he went wild over me. And he held his club where everyone could see. He was breathing mighty hard when he saw my union card. He went wild, simply wild over me. Then the judge, he went wild over me. And I plainly saw we never could agree. So I let his nibs obey what his conscience had to say. He went wild, simply wild over me. Oh, the jailer, he went wild over me. And he locked me up and threw away the key. Well, it seems to be the rage that they keep me in a cage. They go wild, simply wild over me. They go wild, simply wild over me. I'm referring to the bedbug and the flea. They disturb my slumber deep and they rob me of my sleep. They go wild, simply wild over me. Will the roses grow wild over me when I'm gone into the land that is to be? When my soul and body part in the stillness of my heart, will the roses go wild over me.
C'était Pete Seeger, Popular Wobbly. Alors, au début du mouvement ouvrier américain, il n'était pas anodin d'être syndicaliste ou sympathisant d'un syndicat. Popular Wobbly témoigne d'une époque où les travailleurs étaient souvent harcelés, voire emprisonnés pour leurs activités militantes. Si je peux me permettre un commentaire, on se demande si on n'est pas en train d'y revenir.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
Qu'escutat la clau de las ondes nabant pundets a Bordeaux.
Decisions made in écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10.
Σόλ απάνε μου
της ελλείψης πενταγραμμό στα δάχτυλα ψυχαλίσε
moderne.